Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ces deux heures d'infos, de débats et de points de vue. Ce soir encore, la France dans l'expectative des annonces du gouvernement face à la crise sanitaire. Reconfinement locaux, fermeture des collèges, des lycées, toutes les options sont désormais sur la table. Une nouvelle réunion de crise est prévue au sommet de l'État. Alors où va-t-on? Quelle stratégie? À quoi faut-il s'attendre? On posera la question ce soir à notre invité, le professeur Stéphane Gaudry, en charge du service de médecine intensive réanimation à l'hôpital de Bobigny. Une crise sanitaire qui n'en finit plus et une défiance des Français qui grandit. C'est le résultat d'une grande enquête choc publiée aujourd'hui. 79% des électeurs envisagent un vote protestataire en 2022. On en parlera à 18h30 avec les grandes voix. Et puis à 19h15, le débat du Club des idées. La France attaquée sur sa laïcité et sa liberté d'expression par une partie du monde musulman. La Turquie annonce à son tour un boycott du Made in France, le Qatar, le Koweït, le Pakistan, le Maroc. Tous s'en prennent à notre droit au blasphème après le discours du président Macron. Alors quelles conséquences diplomatiques faut-il y voir? Une volonté de déstabiliser notre démocratie et notre modèle? On en débattra avec nos invités, des spécialistes, vous verrez, du sujet. Voilà pour le programme chargé de ces deux heures. D'abord, le point sur l'actu avec le journal d'Isabelle Millet. Bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
18h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Que le confinement va être national. C'est pas le couvre-feu qui va suffire. Mais s'il y a confinement, il faut qu'il soit accompagné par une politique de dépistage et une politique d'isolement.
Des chiffres de pire en pire. Les épidémiologistes estiment qu'on ne pourra pas échapper à un nouveau confinement. Mais sous quelle forme? Plusieurs pistes sont à l'étude.
Emmanuel Macron bouscule en tout cas son agenda en raison du contexte sanitaire et un nouveau conseil de défense se tiendra demain matin.
France-Turquie, l'escalade après l'appel au boycott des produits français. Recep Tayyip Erdogan compare la campagne de haine contre les musulmans dirigée selon lui par Emmanuel Macron à celle contre les juifs d'Europe avant la Seconde Guerre mondiale.
Et on verra dans ce journal comment réagit la communauté turque chez nous en France.
Au procès des attentats de janvier 2015, l'impossible interrogatoire aujourd'hui du principal accusé.
Et puis Proust, la nouvelle Madeleine du metteur en scène Christophe Honoré avec la troupe de la Comédie française.
La Bourse de Paris a terminé ce soir en très forte baisse, moins 1,90% à 4816 points.
La tendance météo avec Anissa, bonsoir, et le retour de la pluie demain.
Bonsoir Julien, effectivement c'est à cause d'une perturbation assez active qui arrive demain par l'ouest. Au programme donc pluie, vent, neige et température en baisse. Bon, je vous rassure, certaines régions auront droit au soleil demain. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Et cette question à la une donc ce soir, la France a-t-elle perdu le contrôle de l'épidémie?
Jusqu'à présent, les épidémiologistes et les médecins s'accordaient à dire que la situation était sous tension. Visiblement, Victor Delande en a encore franchi un cap.
Oui, plus de 52 000 cas de coronavirus enregistrés sur tout le territoire pour la seule journée d'hier. Et c'est la première fois qu'on passe cette barre symbolique des 50 000 contaminations en 24 heures. Un chiffre qui, selon le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy ce matin, est sous-évalué. On serait plutôt aux alentours de 100 000 cas quotidiens, selon lui. Et ces contaminations, vous le savez, ont une répercussion sur notre système de santé. En Île-de-France, 67% des lits de réanimation sont déjà occupés par des patients Covid. À ce rythme-là, on sera au-dessus des 90% dès le week-end prochain. L'épidémie est hors de contrôle. Pour Jean Rottner, le président de la région Grand Est, il n'y a pas d'autre solution que le reconfinement.
On sent maintenant depuis quelques heures et quelques jours la situation se dégrader dans notre pays. Alors certes, des dispositions ont été prises, le couvre-feu, mais n'attendons pas les résultats de ce couvre-feu dans 10 jours ou 15 jours pour commencer à discuter à un éventuel reconfinement.
Et il veut justement pousser le gouvernement à ouvrir des discussions sur le sujet, ne pas prendre des décisions à la dernière minute sans concertation pour qu'une fois enfin les politiques et les scientifiques accordent leur violon dans cette épidémie.
Victor Delande du service Société d'Europe 1.
Et face à ce constat, on vient de l'entendre, de plus en plus de voix s'élèvent désormais en faveur d'un reconfinement.
Reconfiner comme l'ont fait les Irlandais ou les Gallois par exemple, ou bien avancer le couvre-feu nocturne. Quelle option le gouvernement va-t-il choisir? Plusieurs possibilités sont sur la table qui impacteraient plus ou moins la vie des Français et notre économie.
Et le président en tout cas bouscule son agenda, Adrien Beck, pour se consacrer aux réponses face à cette crise sanitaire.
Oui, demain après-midi, Emmanuel Macron aurait dû se rendre au Creusot pour parler nucléaire. Eh bien, il n'en sera rien. Et c'est assez rare pour être souligné, déplacement annulé. Le président bouscule son agenda en raison de la situation sanitaire, dit-on à l'Élysée, car le chef de l'État a regardé les chiffres épidémiques du week-end et ils sont catastrophiques, constate un de ses proches. Deux conseils de défense sont donc convoqués à l'Élysée. le premier demain matin. Il s'agit de définir les scénarios possibles. Voici en gros la palette, hein, avancer l'heure du couvre-feu, l'élargir au week-end, confiner localement, autant de pistes qui seront évoquées demain après-midi avec les patrons de partis politiques reçus à Matignon, les associations d'élus aussi, les partenaires sociaux suivront demain soir. Il s'agit de concerter tout cela avant un nouveau conseil de défense mercredi matin pour arbitrer et donc arrêter les décisions. On avait prévu des clauses de revoyure à 15 jours. C'est dépassé, confie un collaborateur du Premier ministre, Jean Castex. Emmanuel Macron, désormais engagé dans une course de vitesse contre le virus pour éviter une redoutée catastrophe sanitaire.
Bien, merci Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Et à noter qu'on en parlera également dans un petit quart d'heure avec notre invité, le professeur du service de médecine intensive réanimation à l'hôpital Avicenne de Bobigny, le professeur Stéphane Gaudry. Emmanuel Macron qui est par ailleurs très occupé sur un autre front en ce moment.
Oui, le chef de l'État face à l'hostilité, vous le savez, de la Turquie et de son président Recep Tayyip Erdogan. Le ton est encore monté d'un cran ce lundi. Le président turc, qui s'était déjà inquiété de la santé mentale d'Emmanuel Macron, a rejoint cette fois Jihan Bergawi, ceux qui appellent à un boycott des produits français.
Absolument, ces appels au boycott lancés dans plusieurs pays du Moyen-Orient circulent depuis ce week-end sur les réseaux sociaux. Et cette fois, c'est donc Recep Tayyip Erdogan en personne qui s'empare du sujet. À Ankara, il lance un appel ferme et sans ambiguïté au peuple turc.
Je m'adresse à ma nation. Tout comme en France, certains disent « n'achetez pas de marque turque ». Je m'adresse ici et maintenant à ma nation. Surtout, ne prêtez pas attention aux marques françaises. Ne les achetez pas.
Et puis dans ce discours virulent, le président turc compare le traitement des musulmans en Europe à celui des juifs avant la Seconde Guerre mondiale. Il accuse certains dirigeants européens de fascisme et de nazisme. Et il les appelle à dire stop à la campagne de haine qui est, selon lui, dirigée par Macron. Un appel resté sourd puisque les dirigeants européens condamnent les propos d'Erdogan. Pour la diplomatie allemande, il s'agit d'attaques diffamatoires et absolument pas acceptable. L'Italie et le Portugal viennent d'apporter à leur tour leur soutien au président français.
Les précisions de Jihan Bergawi pour Europe 1. On va vous retrouver maintenant Yasmina Katou. Vous vous trouvez auprès de la communauté turque de France. Comment réagit-elle, Yasmina, à ces mots et à ces attaques très virulentes du président Erdogan ?
Eh bien, elle n'est pas très bavarde. Ici, Turcs et Franco-Turcs préfèrent ne pas parler politique. Ils se sentent français, disent-ils, loin des conflits de leur pays d'origine. Mais au centre culturel turc, la guerre des mots entre Emmanuel Macron et Recep Tayyip Erdogan est au cœur des discussions. Demir Ranger est le président de l'association depuis maintenant 36 ans. Selon lui, les deux chefs d'État tentent de faire le buzz.
Les hommes d'État doivent parler avec un certain langage diplomatique. On peut dire la même chose de plusieurs manières. En se criant les uns sur les autres, en fin de compte, c'est plutôt pour l'opinion interne que des deux côtés sont en train de faire ça. En France, on oublie un peu Covid. En Turquie, on oublie la crise économique. Le peuple est un petit peu distrait avec ça.
Et pas d'inquiétude non plus du côté de Lütfi, venu boire un thé au centre. La France a besoin de la Turquie et inversement.
C'est une crise aiguë, passagère. Parce qu'il ne faut pas regarder la photographie donc, de jour J. Il faut regarder sur six siècles de relations entre la Turquie et la France. Il y a le haut et le bas, donc ce sont deux pays qui sont complémentaires et puis qui ont besoin des uns des autres.
Cette dispute franco-turque à celle d'un vieux couple. Selon lui, Emmanuel Macron et Recep Tayyip Erdogan ne sont pas prêts de divorcer.
Merci Yasmina Katou. Vous étiez donc dans le 10e arrondissement de Paris auprès de la communauté turque.
Et on y reviendra très largement sur ce débat et ses implications diplomatiques entre la France et la Turquie notamment à 19h15 dans le Club des Idées.
Et notez que c'était la rentrée scolaire aujourd'hui sur l'île de la Réunion, une semaine donc avant la métropole. Et ce matin, les élèves ont respecté une minute de silence à la mémoire de Samuel Paty.
Europe 1, Julien Bugier.
Vous restez avec nous à suivre dans votre journal de 18h l'impossible audition d'un des principaux suspects du procès des attentats de 2015.
Et puis Marcel Proust au théâtre, mais version pop.
Aha.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite de votre journal à 18h09 avec Isabelle Millet. La suite justement du procès des attentats de janvier 2015. On en parle maintenant devant la cour d'assises spéciale de Paris avec l'audition tendue de l'un des principaux accusés.
Oui, il s'appelle Ali Rizapola. Il est le seul accusé présent renvoyé pour complicité d'actes terroristes. Il connaissait Amédi Coulibaly et il apparaît à tous les stades de la préparation des attentats. Mais il a continué aujourd'hui, Gladys Laffitte, continué à nier farouchement sa culpabilité.
Oui, Ali Rizapola trépigne derrière la vitre de son box, s'énerve, hurle même, tape du poing. Je ne comprends pas, je n'ai rien à voir avec le terrorisme. C'est dur à entendre, mais Coulibaly, c'était mon ami. Je ne vais pas lui donner des kalachnikovs pour qu'il se fasse tirer dessus. Il est accusé notamment d'avoir fourni des armes aux terroristes, ce qu'il conteste. Ses explications sont pourtant très laborieuses. C'est en fait un dialogue de sourds entre l'accusé et le président qui peine à obtenir des réponses claires. Comme par exemple, lorsqu'on lui demande pourquoi il tente de rejoindre la Syrie le 17 janvier 2015. Il se fera d'ailleurs refouler à la frontière. À Damas, rétorque Ali Rizapola, car il sait que Damas est en rupture diplomatique avec la France. Lui, qui ne cesse de se dépeindre comme un braqueur cupide, assure qu'il n'aurait pas tenu 30 minutes chez l'État islamique. Version confirmée par sa famille à la barre. Des Kurdes qui n'ont pas accepté sa conversion à l'islam. Son petit frère, beaucoup plus clair que son aîné, se fait son avocat. Vous dites que c'est le numéro 1 dans cette affaire. Moi, je vous dis qu'il n'était pas radicalisé, comme vous dites. Il était trafiquant de drogue, faisait des magouilles pour avoir de l'argent, mais n'a jamais vendu d'armes.
Gladys Laffitte à la cour d'assises spéciale de Paris pour Europe 1.
On en vient maintenant au procès en appel de Bernard Tapie dans l'affaire de l'arbitrage controversé de 2008, renvoyé à mai prochain en raison de l'état de santé de l'homme d'affaires.
Oui, qui souffre, on le sait, d'un double cancer et dont l'état s'est donc dégradé ces derniers jours. L'ancien ministre était apparu très affaibli il y a 15 jours à l'ouverture de ce procès. Michel Fourniret et son ex-épouse conduit une nouvelle fois aujourd'hui dans les Ardennes, sur les lieux où le tueur en série est accusé d'avoir séquestré et tué Estelle Mouzin. Après ses aveux, les enquêteurs espèrent qu'il leur livrera enfin cette fois l'endroit où se trouve le corps de la petite fille.
Encore une semaine, une dernière semaine de campagne aux États-Unis. C'est lundi prochain que les électeurs devront départager Joe Biden et Donald Trump, sachant que près de 60 millions d'Américains ont tout de même déjà voté.
Et on retrouvera à 19h comme tous les soirs le journal de campagne de Xavier Yvon. Les États-Unis où le Sénat à majorité républicaine doit confirmer ce soir la nomination à la Cour suprême de la magistrate Amy Coney Barrett, choisie bien sûr par Donald Trump. La Cour suprême, institution clé qui sera donc composée désormais de 6 juges conservateurs et de 3 progressistes.
Et on le rappelle, Isabelle, dispositif exceptionnel toute la semaine et la semaine prochaine pour suivre en direct du matin au soir le résultat de ces élections américaines. Et puis du théâtre, Marcel Proust, revisité par le metteur en scène Christophe Honoré au Théâtre Marigny à Paris.
Et c'est à ne pas manquer, paraît-il, tant qu'on peut encore aller
au
théâtre.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire.
En tout cas, c'est une version revisitée du côté de Guermantes, du Proust, version pop. Diane Chénouda a assisté à l'une de ses représentations. My Lady
d'Abonville. La pièce commence par cette reprise de Cat Stevens, chantée par le jeune Marcel, qui est fasciné par la duchesse de Guermantes. Mais il va vite déchanter. Elle est aussi belle qu'insaisissable, cruelle et snob.
Avec ma cousine, il arrive la même chose qu'avec les auteurs constipés. Ils pompent tous les 15 ans une pièce en un acte ou un sonnet. Enfin, c'est ce qu'on appelle des petits chefs-d'œuvre, des riens qui sont des bijoux. Enfin, en un mot, la chose que j'ai de plus en horreur.
La vanité des salons mondains, la désillusion amoureuse, on est bien dans l'univers de Proust. Et on reconnaît aussi la patte du metteur en scène Christophe Honoré et son amour des chansons.
Le spectacle est assez musical, oui, mais parce que Proust est très musical. C'est vrai que j'ai plutôt été chercher des références dans les années 60, 70 pour que ce soit vraiment partagé, on va dire, qu'il y ait des effets de Madeleine comme ça pour le spectateur qui soudain reconnaît une chanson qu'il a déjà entendue.
Un spectacle drôle aussi, servi par l'excellente troupe de la Comédie Française. Ici à son meilleur.
J'ai beaucoup aimé la modernité qu'il y a dans la mise en scène.
C'est une merveille, le jeu des acteurs, c'est assez remarquable.
Le côté de Guermantes, donc adapté et mis en scène par Christophe Honoré avec la Comédie Française au
Allez-y
Théâtre
vite,
Marigny.
Hein.
C'est jusqu'au 15 novembre.
Non, je plaisante.
C'est pas encore, on verra. On va suivre ça.
Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure à 18h30 pour le rappel des titres et 19h pour le grand journal de l'info. La météo avec Anissa qui nous annonce des bonnes nouvelles. Eh ben non, c'est raté. De la pluie également au programme demain.
Je fais ce que je peux, Julien, mais je peux pas mentir aux auditeurs. Donc je suis obligée de vous dire qu'effectivement, demain sera une journée assez maussade à cause d'une nouvelle perturbation qui arrive par l'ouest avec demain matin du Cotentin jusqu'au jusqu'aux Landes, donc sur toute la façade atlantique, des pluies et du vent sur les côtes. Sur le reste du pays, demain matin, les averses sont un petit peu plus éparses. Et puis dans l'après-midi, la perturbation, elle avance assez vite d'ailleurs pour toucher les trois quarts de la France. Sur la moitié nord et l'arc atlantique, eh bien là, le vent continue de souffler assez fort. Il n'y a finalement que du Roussillon à la Côte d'Azur, de l'Alsace à la Provence jusqu'en Corse, que vous aurez droit au soleil demain. Là, ce sont les régions où la journée sera la plus agréable. Ailleurs, c'est pluvieux et gris. Les températures, en plus de ça, on en rajoute une couche, elles sont en baisse.
Ah oui.
Avec 3 à 11 degrés demain matin et 10 à 20 demain après-midi. 10 pour Aurillac, 13 à Lille et Clermont-Ferrand, 14 à Paris, 16 à La Rochelle et 20 à Bastia.
Bon, vous vous débrouillez comme vous voulez, mais vous revenez avec des bonnes nouvelles tout à l'heure. Merci.
Je suis pas magicienne.
Merci Anissa, on vous retrouve à 18h30.
Europe 1, Julien Bugier.
18h15, vous restez avec nous dans quelques secondes. À quoi faut-il s'attendre dans les prochains jours face à cette seconde vague du Covid qui paraît désormais hors de contrôle? Un reconfinement est-il possible? Est-il souhaitable? On posera la question à notre invité, le professeur Stéphane Gaudry. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et notre invité ce soir à 18h18, il est professeur du service de médecine intensive réanimation à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Bonsoir Stéphane Gaudry.
Bonsoir.
Merci de votre présence. On a beaucoup de questions évidemment à vous poser ce soir, vu le contexte, ce conseil de défense annoncé par le président de la République demain et puis mercredi. D'abord, comment se porte ce soir votre service? Est-il, comme beaucoup d'autres en France, déjà saturé par les patients Covid?
Alors oui, les services de réanimation globalement dans le 93 en Seine-Saint-Denis sont maintenant saturés depuis de nombreux jours. Mais on arrive, on va dire, à gérer des entrées et des sorties de patients qui nous permettent de tenir, on va dire, en tout cas sur le plan intra-hospitalier. On a du mal à aider les collègues qui travaillent par exemple au SAMU, qui sont obligés d'envoyer des patients à l'extérieur du 93.
Ce matin, le professeur Delfraissy, président du conseil scientifique, estimait que le vrai chiffre des contaminations en France était plus proche des 100 000 cas de contamination par jour que des 50 000, qui est le chiffre officiellement donné, par exemple, pour les dernières 24 heures. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette estimation? Est-ce que ça vous paraît crédible?
Alors, je pense que déjà, il est plus compétent que moi pour répondre à cette question du nombre de personnes potentiellement affectées. Mais ça, ce qui est certain, c'est que ce qu'on voit n'est qu'une petite partie, en tout cas une partie partielle, de la réalité. Bien entendu, oui, il y a un nombre important de patients qui ne sont pas diagnostiqués parce que voilà, ils n'ont que peu de symptômes ou pas du tout de symptômes.
Les plus pessimistes professeurs de vos confrères évoquent des prévisions de l'ordre de 1000 décès par jour dans quelques semaines, si rien n'est fait. Pour mémoire, on était, je crois, à 600 décès par jour au plus fort de la crise en avril dernier. Est-ce que là aussi, ça vous paraît plausible?
Oui, tout à fait, c'est plausible, en tout cas de ce qu'on
1000 décès par jour.
De ce qu'on constate, il y a plusieurs choses. De ce qu'on constate, c'est qu'on a une augmentation qui est régulière et on a du mal à imaginer comment ça va s'arrêter en dehors de faire des confinements encore plus importants. Donc ça, c'est une première chose.
Oui.
Mais la deuxième chose, et je pense que c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que au-delà des patients qui décèdent du Covid, quand vous mettez le système de soins en tension, eh bien, ce que vous risquez d'avoir, c'est une perte de chance pour les autres patients qui ne sont pas Covid. Et donc, il y a des décès ou des pronostics qui sont altérés pour certains patients du fait de la situation de tension sur le système hospitalier. Et ça, ça a comme conséquence probablement des chiffres beaucoup plus importants que ce qu'on a eu précédemment.
Qu'est-ce que vous dites ce soir aux Français professeurs qui s'interrogent sur le fait que les professionnels de la santé, les politiques, nos décideurs n'ont pas vu arriver la puissance de cette seconde vague? Certains de vos collègues disaient même il y a quelques jours « je n'y crois pas à ces chiffres, je ne peux pas y croire ».
Alors je ne sais pas quel collègue, j'ai entendu quelques personnes le dire, oui, mais moi personnellement, dans les gens avec qui je travaille, ça fait quand même un certain nombre de semaines qu'on dit qu'il se passe quelque chose, que c'est beaucoup plus important que juste un tout petit rebond, que ça va être quelque chose de très compliqué. Donc la surprise est assez limitée. On savait que ça allait être très très compliqué au mois d'octobre, au mois de novembre. Donc on est finalement malheureusement pas très surpris. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire aux Français? C'est qu'on a besoin d'un esprit d'équipe. Je pense que tous les soignants, tous les médecins, chercheurs qui travaillent sur cette pathologie-là, ils ont besoin de sentir qu'il y a un esprit d'équipe derrière eux pour soutenir le système de soins, pour soutenir la science, pour soutenir la médecine. Et bien entendu, tout ça, c'est pour, à la fin, s'occuper au mieux des Français et des Françaises.
Vous avez raison de le rappeler, la solidarité est importante et la compréhension vis-à-vis du système de soins. Mais les Français, pardonnez-moi de l'expression, mais ils jouent aussi leur peau dans cette affaire. Parce que si demain il y a reconfinement, l'économie est à terre et ce sont des emplois,
des petits patrons, ce sont la vie des gens qui est en jeu.
Bien sûr, non, mais c'est de toute façon, il faut bien avoir conscience que les professionnels de santé, ils ont parfaitement conscience de ça. Vous savez, on ne vit pas que dans l'hôpital. Ouais. On a des conjoints, des conjointes qui ont autre chose qu'un travail à l'hôpital. Donc, on sait très, très bien les conséquences que ça peut avoir sur l'économie, sur l'emploi et à la fin, sur la santé. Bien parce sûr. Que quand vous avez des personnes au chômage... Donc, c'était des décisions extrêmement compliquées à prendre. Et c'est pour ça que ces décisions-là doivent être prises en équipe et doivent être un minimum soutenues et comprises.
Alors, justement, que faire, Stéphane Gaudry, face à cette situation qui paraît désormais hors de contrôle? Êtes-vous favorable, par exemple, à l'idée qui est évoquée, hein, que prendra peut-être le président de la République dans les prochaines heures, de reconfinement locaux?
Oui, je pense que c'est un des outils maintenant, malheureusement, nécessaire dans certains endroits où il n'y a plus de contrôle du tout de ce qui se passe.
Mais ça veut dire surtout, quoi, par ville, par département?
Alors ça, c'est des choses qui doivent se décider, on va dire, régionalement. Hein, parce que dans une ville, si vous faites un confinement sur une ville, c'est vraiment trop petit, sauf si la ville est très grande. Oui. Mais il faut, à mon avis, prendre des décisions sur le plan régional. Donc quand vous parlez par exemple de l'Île-de-France, là où moi
toute
je travaille,
l'Île-de-France.
Il faut bien entendu prendre bien sûr, parce que en fait c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand vous avez une partie de la région Île-de-France qui souffre plus qu'une autre, eh bien de toute façon vous avez des transferts de patients d'une partie de la région à l'autre, parce que c'est ça qu'on a fait depuis quelques semaines pour équilibrer le charge de travail. Et donc, de toute façon, tout le monde va être en tension. Donc, il faut une décision qui soit régionale. Si elle est prise, c'est celle-là qu'il faut prendre.
Est-ce que des masques obligatoires dès la primaire et une fermeture des universités, des collèges et des lycées, comme cela est évoqué par certains, ça permettrait aussi de ralentir la propagation du virus?
Alors, la réponse est oui, ça le permettrait. Maintenant, personnellement, je suis... Alors, c'est compliqué à expliquer parce que c'est d'un point de vue de la santé, d'un point de vue du médecin, je pense qu'il faut le faire. Mais je suis très, très embêté par cette décision parce que, alors, vous comprenez, dans le 93, nous, les enfants qui vont à l'école dans le 93, l'école, c'est quelque chose d'extrêmement important. Hein, c'est quelque chose qui leur permet de garder un ancrage au sein de notre société. C'est des enfants qui, parfois, sont dans de grandes difficultés.
Terrible. On a vu qu'il y avait des milliers d'enfants qui n'étaient pas revenus à l'école après le confinement.
Exactement. Et quand pendant des semaines, voire des mois, ces enfants qui sont dans la difficulté, une difficulté sociale, ne vont pas à l'école, ça a des conséquences terribles.
Donc, mais sur un plan sanitaire, ce
serait
efficace.
Un plan sanitaire, ça se réfléchit. Je pense qu'il y a des décisions qui peuvent être de, par exemple, limiter, on va dire, à la moitié des enfants dans la classe en essayant de réduire au maximum. Après, sur les universités, là encore, je pense qu'on peut faire encore des efforts.
Professeur Gaudry, une question peut-être moins politiquement correcte. Est-ce que, comme certains l'avancent, je pense à Martin Blachier par exemple, épidémiologiste, il faudrait un confinement solidaire pour les plus de 65 ans et les personnes fragiles? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est possible? Alors, on nous répète à longueur de journée que 9 victimes du Covid sur 10, hein, c'est le spot de sensibilisation qui passe à la radio et à la télévision, concerne les plus de 65 ans. Est-ce qu'il faudrait appliquer un confinement particulier pour cette population-là?
Alors, ça avait déjà été évoqué au mois de mars et au mois d'avril en disant comment on pourrait faire éventuellement pour lever le confinement à partir d'avril en sauvegardant cette population-là. Oui. Le problème, c'est que, à ma connaissance, mais encore une fois, je ne suis pas spécialiste sur le plan légal, je crois que ça pose un problème sur le plan constitutionnel
Mais ce serait l'idéal dans un monde...
Oui, mais d'un autre côté, il faut bien avoir conscience que les personnes âgées et les personnes fragiles font déjà beaucoup d'efforts pour, entre guillemets, se confiner. Mais je pense qu'il faudrait les aider, notamment dans le travail, pour que certaines personnes puissent avoir la possibilité de travailler chez eux si jamais la décision de confiner n'était pas prise. Et donc, encourager le télétravail, éviter les déplacements dans des endroits où il y a beaucoup de monde pour ces personnes-là, c'est très important.
Stéphane Gaudry, la raison pour laquelle le virus galope aujourd'hui, est-ce que c'est lié au climat, comme on l'entend parfois? Le Covid est peu résistant au froid qu'à la chaleur. On dit aussi que notre système immunitaire serait moins fort en cette période qu'il l'a été, par exemple, pendant la période estivale. Est-ce que ça, c'est avéré?
Écoutez, ça, c'est beaucoup de discussions qui n'ont pas beaucoup de fondement. Alors, bien entendu, vous trouverez des études qui montrent que quand il fait froid ou quand vous soumettez des gens au froid, ils ont le système immunitaire qui baisse un peu.
Mais
ce sont des hypothèses. Et encore une fois, le vrai problème, c'est qu'en cette période-là, on a de toute façon, habituellement, des patients qui viennent à l'hôpital avec d'autres virus parce qu'on s'enferme à la maison, on s'enferme dans des endroits parce qu'il fait froid, donc on est moins à l'extérieur. C'est quelque chose. Et c'est pour ça qu'il faut aérer vos bâtiments.
Dernier élément, professeur Stéphane Gaudry, si reconfinement il y a, quelle est la bonne durée pour que ce soit efficace?
Alors, De toute façon, le minimum, c'est 2 semaines.
Hein.
C'est-à-dire, voilà, si vous voulez faire quelque chose d'efficace, il faut au moins 2 semaines. Mais 2 semaines, c'est vraiment très, très petit quand on regarde l'évolution de ce virus-là.
Ce serait plutôt un mois.
Donc, ce serait plutôt un mois si on avait des décisions de confinement à prendre. Encore une fois, je pense que c'est une décision extrêmement difficile à prendre. Elle a des conséquences au-delà du système de santé. On en a tous conscience, nous, les professionnels de santé, mais on a besoin vraiment d'un travail d'équipe pour qu'on arrive à donner le meilleur soin à nos malades.
Bien, message entendu. Merci infiniment, professeur Stéphane Gaudry, d'avoir été ce soir notre invité.
Europe 1, Julien Bugier.
18h27, dans un instant, le rappel des titres et le débat des grandes voix. On évoquera notamment ce sondage choc. 79% des Français disent envisager un vote anti-système en 2022. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h30, le rappel des titres avec vous, Isabelle Millet.
Et l'inexorable progression de l'épidémie, le président du Conseil scientifique se dit lui-même surpris par la brutalité de ce qui est en train de se passer depuis 10 jours. Il estime autour de 100 000 le nombre de nouvelles contaminations par jour en France. Le plan blanc est déclenché dans tous les hôpitaux du Grand Est. Emmanuel Macron modifie son agenda en raison de cette situation sanitaire. Conseil de défense restreint demain matin. Le Premier ministre recevra, lui, demain soir les forces politiques et les partenaires sociaux avant un nouveau Conseil de défense mercredi matin et sans doute des annonces d'ici la fin de la semaine. L'offre de transport en commun de la région parisienne va être réduite à partir de mercredi soir en raison d'une baisse de la fréquentation liée bien sûr à l'instauration du couvre-feu. 1 métro sur 2 seulement. Le gouvernement n'entend pas renoncer à la réforme de l'assurance chômage. Réforme majeure, dit le Premier ministre, mais dont l'application est de nouveau reportée de 3 mois. Et puis tension toujours très vive entre la Turquie et la France. Le président turc compare le traitement des musulmans en Europe à celui des juifs avant la Deuxième Guerre mondiale. Il accuse même certains dirigeants européens de fascisme et de nazisme, alors que les appels au boycott des produits français se multiplient dans plusieurs pays musulmans.
Merci Isabelle, et on en parlera très largement dans le débat du Club des Idées à partir de 19h15. La météo avec Anissa qui nous a rejoint et qui nous annonce donc des bonnes nouvelles, comme promis pour demain, c'est-à-dire une journée maussade et pluvieuse. Merci Anissa.
Je n'ai pas trouvé de bonnes nouvelles puisqu'une perturbation arrive par la façade atlantique demain et elle va recouvrir quasiment tout le pays. Alors il faut savoir que demain, sur la façade atlantique, le bassin parisien et l'Auvergne, il pleut dès le début de journée. Ailleurs, c'est gris avec des averses. Et puis, au bord de la Méditerranée, en vallée du Rhône et sur le Grand Est, là, quand même, il fait beau. Dans l'après-midi, la perturbation va avancer, recouvrir les trois quarts de la France. Le ciel est gris et pluvieux partout, vous l'avez compris, sauf au bord de la Méditerranée, le long des frontières de l'Est, où là, le soleil s'impose bien. Les températures, elles sont bien plus fraîches. Couvrez-vous, 4 à 11 degrés demain matin, 10 à 20 dans l'après-midi, avec 14 degrés à Paris et 20 pour Bastia.
20 pour Bastia. Les chanceux, c'est Corse. Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure. À partir de 19h.
18h20, Julien Bugier.
18h32, le débat des grandes voix avec ce soir à mes côtés, comme chaque lundi, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Alors, question ce soir, faut-il reconfiner la France face à cette seconde vague désormais hors de contrôle? Une nouvelle réunion de crise est prévue à l'Élysée demain soir. Et déjà, il se murmure que de nouvelles restrictions pourraient être annoncées en fin de semaine. Et les critiques fusent dans l'opposition sur le manque de cap et le manque de stratégie, à l'image de Damien Abad, chef de file des députés LR.
Pourquoi on en est à cette situation? Et pourquoi il n'y a plus de bonne solution? Parce que la stratégie du gouvernement, elle a échoué. Sur le tester, tracer, isoler, c'est un échec complet. Parce que c'est la stratégie du temps de retard permanent. Moi, ce que je dénonce aujourd'hui, c'est que le gouvernement a toujours 15 jours de retard sur les mesures à prendre. Et je vais être très clair avec vous. Je préfère des confinements locaux à la Toussaint plutôt qu'un confinement généralisé à Noël.
Il a raison, Gérard Carrérou, Damien Abad, le gouvernement a toujours un train de retard, 15 jours de retard.
Effectivement, sur un certain nombre de sujets, mais je crois que malheureusement, ce n'est pas le moment de régler les comptes et de régler les comptes politiques. Aujourd'hui, le moment est d'une exceptionnelle gravité. Quand on vous parle de 52 000 contaminations pour hier, et que certains médecins le professeur Delfraissy avait parlé, lui, il disait sans doute le double. Il y en a en fait 100 000, oui, disait-il. Et certains médecins, et vraiment spécialisés et crédibles qu'on a entendus dans d'autres circonstances, parlent même de 200 000, c'est-à-dire 4 fois plus que le chiffre. Donc, c'est dire, et on voit bien ce qui se passe alentour, c'est-à-dire dans tous les pays d'Europe. Donc, la situation est effectivement...
Mais ce qu'il dit, Abad, c'est qu'on est en train de gérer la non-préparation de nos hôpitaux par le gouvernement.
Sans doute. Il y a des sujets sur lesquels on peut s'interroger. Si vous voulez que je vous en cite, on peut se demander pourquoi les Italiens ont réussi, dans l'intermède entre les deux, entre les deux crises, ont réussi à créer, si vous voulez, 6 000 lits de plus et à engager 12 000 infirmières.
C'est vrai que le gouvernement en avait promis alors, 8 000 de plus.
Voilà, on peut se poser ce genre de questions. Il faudra bien régler ces comptes-là. Et pour l'instant, la question, c'est que va faire le gouvernement ? Moi, je pense qu'on est parti. Le branle-bas est déclenché pour un reconfinement. On verra après dans quelle modalité. Mais quand on vous annonce ce soir, c'est il y a une heure, quand on vous annonce qu'il y aura un premier conseil de défense demain, suivi d'un conseil des ministres et d'un deuxième conseil de défense. Entre-temps, absolument, le Premier ministre aura rencontré les représentants de tous les partis politiques et associations, etc.
Et les partenaires sociaux pour parler de l'économie, des enjeux qu'il y a derrière.
On se dit donc qu'il y a tous les ingrédients pour une annonce en milieu de semaine ou fin de semaine d'une forme de reconfinement. Ouais. Alors on prendra effectivement peut-être, ça ne sera pas exactement à l'identique, par rapport au premier, mais ça sera une forme de reconfinement.
Ce qui est difficile à comprendre tout de même, Charles Villeneuve, c'est qu'à chaque prise de parole, l'exécutif nous dit on va laisser le temps au temps pour voir les effets de ces mesures. C'est ce qu'on nous avait dit à propos du couvre-feu, on laissera au moins 15 jours. On est 10 jours plus tard et on annonce déjà un nouveau tour de vis. C'est vrai que c'est difficilement compréhensible, la stratégie et la vision à long terme de l'exécutif.
Mais il faut croire finalement que toute l'Europe, même les meilleurs élèves aujourd'hui, ont été dans la position de constater si leur décision avait un effet. C'est vrai pour l'Allemagne, c'est vrai pour l'Autriche, c'est vrai pour la Suisse. Ce sont les trois meilleurs élèves de l'Europe. Oui. Et ces trois meilleurs élèves prennent là aussi des décisions en forme de tour de vis pour les jours qui viennent.
Moins drastique que les nôtres tout de même pour l'Allemagne, par exemple, qui est loin derrière, hein, 10 000 contaminations
Non, mais justement, l'Allemagne, elle aussi, a des problèmes pour, si vous voulez, cheminer sur la ligne de crête entre l'aspect sanitaire et l'aspect économique. C'est plus difficile parce que, dès le départ, ils ont une stratégie d'application, si vous voulez, des tests beaucoup plus efficaces. Hein, tester, tracer, isoler. C'est toujours la stratégie de la France.
Et puis une culture du respect des règles, si vous me permettez, qui est plus importante que chez nous, les Français.
Oui, mais ça tient au tempérament aussi, qui n'est pas celui des Français. Mais ce qu'on sait, si vous voulez, qui est sur la table, on peut en parler, ça n'est pas tout à fait décidé, c'est vendredi soir que nous saurons, à l'issue des deux conseils de défense auxquels a fait allusion Gérard, que la décision du président de la République sera prise. Mais en gros, ce qui est sur la table, c'est un couvre-feu pour les trois zones les plus écarlates, qui est porté à 19h et plus à 21h, c'est-à-dire pour l'Île-de-France, pour la métropole lyonnaise et marseillaise. Bon, pour l'instant, c'est ça.
Le Grand Est aussi, on évoque le Grand Est aussi.
Et le Grand Est. Et aussi un confinement beaucoup plus généralisé le week-end pour ces quatre zones.
Oui.
Bon. Cela étant, je me répète, mais personne ne maîtrise nulle part aujourd'hui l'épidémie. Je voudrais bien voir l'opposition résoudre l'équation extrêmement difficile et incertaine à laquelle fait face l'exécutif.
Bien, on continue d'en parler dans quelques secondes avec les grandes voix. Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, à tout de suite, 18h38.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec la suite du débat des grandes voix, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou, 18h39, et on parle évidemment de la situation sanitaire et de la nouvelle riposte attendue par l'exécutif. Alors certains scientifiques demandent aussi aujourd'hui, Gérard Carrérou, à ce que l'école, l'université ne reprennent pas à la rentrée après les vacances de la Toussaint. Il y a deux stratégies qui s'opposent. La première est de dire on fait repartir les primaires et les maternelles pour permettre aux parents d'aller travailler parce que les contaminations et les enfants sont moins générateurs de circulation du virus. Et puis une deuxième stratégie qui est de dire par contre on ferme les universités, on ferme les collèges et on ferme les lycées.
Oui, absolument. Et je crois qu'il y a un principe simple, c'est qu'on ne veut pas, et d'ailleurs qui voudrait le contraire, on ne veut pas paralyser à nouveau complètement l'économie. Or on sait que c'est facile, à savoir que les parents qui sont obligés de s'occuper des enfants, si les enfants, je parle des petits, si les enfants ne vont plus à l'école, effectivement, les parents, il y a un parent au moins des deux qui ne peut plus travailler. Donc, on va éviter ça. Je pense que la rentrée se fera pour le primaire et pour le début de cycle, si vous voulez.
Oui.
Par contre, est-ce que ça se fera pour les lycées? Je ne sais pas si la mesure est vraiment décidée. En tout cas, pour les universités, c'est là, il faut dire clairement les choses, les universités sont un des foyers prioritaires de contamination.
Qui sont déjà à 50% aujourd'hui de présentiel, c'est-à-dire que les amphis sont plus remplis. Hein.
Voilà, mais il en reste 50%, beaucoup de monde.
Mais
c'est une des préoccupations du gouvernement, à la fois de sauvegarder l'école, parce que c'est, comme l'a dit Macron, c'est dur d'avoir 20 ans aujourd'hui ou 18 ans quand, on est à l'université, mais il va bien falloir faire quelque chose là parce que c'est un point névralgique. Et on arrivera donc à quelque chose qui ressemblera malheureusement à métro boulot dodo pour les parents.
Charles Villeneuve, une réaction et puis après je voudrais vous interroger sur les déclarations assez alarmistes de Geoffroy Roux de Bézieux. Allez-y Charles.
Oui, non, justement, sur lycée, collège et université, et il constitue 22% d'accélération de la circulation du virus. Donc il est inéluctable de toute façon que des décisions devront être prises. Et tout à l'heure, vous disiez, vous faisiez la remarque sur la riposte graduée permanente, c'est-à-dire on attend de toute façon les effets des décisions restrictives et ensuite on avance. Bon, alors c'est vrai que cette adaptation permanente du virus en essayant de trouver une ligne de crête entre la gestion économique et la protection sanitaire, du coup, toutes les semaines, l'exécutif annonce un petit paquet de restrictions, ce qu'il va faire. Donc jeudi, j'ai dit vendredi, vous m'avez... durant la pause, justement, corrigé
en disant... Entrée en vigueur, sans doute, vendredi, c'est ça,
vous avez raison. Et bon, ce qui donne le sentiment, si vous voulez, d'une navigation à vue, en termes de communication et en contrepartie dans l'opinion, une montée inéluctable de l'anxiété, des craintes,
et de l'acceptabilité, encore une fois, des mesures. Moi, j'entends, comme vous, les scientifiques, les épidémiologistes, les professeurs de renom, qui disent depuis des mois, si c'est pour empiler des mesures les unes après les autres, ça n'a pas de sens. Ce qu'il faut, c'est une mesure choc, tout de suite, pour stopper la circulation du virus.
Mais les mesures choc, vous savez, 19h, c'est quand même... Je disais, je terminais mon intervention en disant, ça sera métro, boulot, dodo. Oui. À partir du moment où les gens vont travailler...
La labeur, mais pas de plaisir.
Et non, mais à partir du moment où le couvre-feu sera à 19h, il n'y a plus de possibilité pratiquement de ressortir, sauf pour aller faire 10 minutes de course pour l'alimentaire. Donc, effectivement, on entre à nouveau, si vous voulez, dans un cycle qui est évidemment... Mais il y a, par exemple, il y a un tabou dont pour l'instant, le gouvernement s'y était engagé, puis il avait reculé lors du premier confinement, c'est que fait-on des 15 à 18 millions de gens qui sont, de l'avis de tous les médecins, de tous les professeurs, les fragiles. Appelons-les les fragiles. Les plus de 65 ans sont les plus fragiles, on le sait, on l'a expliqué 25 fois. Donc, que fait-on ?
C'est la question que j'ai posée à notre invité ce confinement.
Ce soir, on en est encore à l'idée, on ne peut pas les confiner de force.
C'est anticonstitutionnel, nous dit le gouvernement.
Voilà. Donc, on en est à l'autoconfinement. C'est-à-dire qu'on a... D'abord, on a constaté que ces gens-là, qui sont à la fois les plus fragiles, mais les plus sérieux pour prendre les mesures sanitaires, le font, mais il faudra encore les... Alors, je ne sais pas comment, il va falloir faire une campagne massive pour les inciter à rester chez eux et à ne recevoir personne chez eux.
Deux remarques pour terminer, et puis après, on marquera une nouvelle pause. D'abord, tout le monde, souvenez-vous, s'était moqué de la prix Nobel d'économie, Esther Duflo, qui militait pour un reconfinement pendant les 15 jours de la Toussaint. On avait tous un peu ricané pour sauver Noël. Ben, elle avait peut-être raison. Première remarque. Deuxième remarque, les déclarations de Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, qui dit tout à l'heure à la sortie des consultations avec le Premier ministre, reprise des négociations sociales, il y a, en cas de reconfinement, un risque d'effondrement de notre économie. Ça n'est pas rien, ça. C'est aussi la vie des gens.
D'autant que Julien, il ne faut quand même pas oublier que la santé, ça coûte très cher et il faut beaucoup d'argent pour justement assurer la santé, le fonctionnement des hôpitaux. Et notamment, justement, un recrutement peut-être à l'italienne d'un certain nombre de médecins supplémentaires et d'infirmières supplémentaires.
Il y a des lits de réanimation aujourd'hui qui sont inoccupés parce que nous n'avons pas suffisamment de soignants pour s'occuper de ces lits-là.
Mais on a suffisamment de soignants dans les cliniques privées, notamment. Alors, je ne vais pas citer mon cas particulier, celui d'hier dans le Var, où, durant la première salve, il y avait quasiment toutes les cliniques de Toulon à hier qui était libre et auquel on n'a jamais fait appel. Or là, il serait temps, puisque semble-t-il, il y a maintenant de toute façon des conversations, des contacts pour mobiliser aussi les privés. Et ça, c'est assez important. Mais il faut toujours se rappeler, et c'est le sens de l'intervention de Geoffroy Roux de Bézieux, c'est qu'il faut quand même continuer à travailler pour produire et pour que l'argent rentre suffisamment.
Et pas pour les autres, mais pour soi.
Bien sûr,
pour sa famille, qu'on fasse pour ses proches.
Pour soi, mais aussi pour faire tourner la santé.
Bien.
Julien, on n'a pas parlé des, des moyens court. De transport. Est-ce qu'on pourra circuler? Est-ce qu'il y aura des interdits? On avait quand même vécu dans un monde où on ne pouvait pas faire plus d'une heure et où il ne fallait pas aller à plus de 100 km.
Tu auras le système de dérogation.
Bien. 18h46, on se retrouve dans quelques secondes. Et vous allez voir que tout est lié. On va parler de ce sondage choc qui confirme la défiance inédite des Français vis-à-vis des institutions et de la politique. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h49, on est toujours avec Gérard Carrérou et Charles Villeneuve pour le débat des grandes voix suite des dernières parties avec ce sondage choc qui confirme la défiance inédite des Français vis-à-vis des institutions et de la politique. 79% d'entre nous envisage un vote protestataire lors de la prochaine présidentielle en 2022. C'est ce que révèle la grande étude du Figaro et de Fondapol. Crise sanitaire, crise financière, hausse du sentiment d'insécurité. Les Français pourraient voter blanc ou se tourner vers les extrêmes. Est-ce que ça vous étonne, messieurs, Gérard Carrérou ?
Non. Moi, ça ne m'étonne pas non plus. Ils ne font plus. Écoutez, il n'y a pas besoin d'être un grand sondeur ni de faire des études longues pour s'apercevoir que les Français sont déconnectés de plus en plus de notre système politique. La confiance, moi je l'ai connue parce que je suis un vieux de la vieille, j'ai connu cette confiance quand même dans le système politique sur les 50 dernières années, je l'ai vu s'éroder au fil des années et là on a eu une accélération de l'érosion. Oui. Donc les gens ne font plus confiance et ils ne font pas plus confiance d'ailleurs véritablement ni à la gauche ni à la droite.
Avec des chiffres très inquiétants quand on regarde le détail de cette étude, par exemple seuls 59% des Français disent leur préférence pour la démocratie représentative. Ils étaient, à titre de comparaison, 64% en janvier dernier, c'est-à-dire il y a quelques mois seulement.
Oui, ils voudraient. Alors, ils veulent. Il y a des tas de contradictions là-dedans, mais ils veulent de l'autorité. Ils mettent l'autorité. L'autorité, ça veut dire l'autorité des types à poigne. En gros, pour un Français moyen, ça veut dire il faut quelqu'un à poigne pour nous diriger. Bon, c'est ça l'autorité pour les gens. Or, ils ont l'impression que ça n'existe plus. Ils se réfèrent à d'autres exemples dans le passé. Et puis, il faut aussi, ils veulent en même temps plus de démocratie. Ils disent, on ne nous consulte pas, on ne nous demande jamais notre avis, etc. Style gilet jaune, etc.
Oui. Donc c'est très paradoxal. Donc, comme
mais je vous dis, c'est paradoxal. Et puis alors, n'oublions quand même pas, quand on parle de cette étude intéressante, qu'on est quand même à plus d'un an de l'élection présidentielle. Et que quand on nous dit aujourd'hui, je vois, ils écrivent dans l'étude, les abstentionnistes peuvent provoquer un accident électoral en 2022, peut-être. Il y a peut-être une chance, un accident électoral, ça veut dire qu'il y aurait tellement de défections dans les électorats du président de la République, s'il est candidat, ou de Marine Le Pen, si elle est candidate, qu'il y aurait des défections telles qu'on arriverait à une crise parce que tout d'un coup surgiraient de je ne sais où d'autres candidats. C'est possible. Pour l'instant, c'est des conjectures.
Le politologue Dominique Régnier, qui a donc réalisé cette enquête, estime que la société française, je le cite, poursuit sa mue, déconsolidation démocratique. Protestation, droitisation à l'extrême. Qu'est-ce que ça vous inspire, Charles?
Moi, je suis assez d'accord sur le fait qu'en réalité, si vous voulez, cette étude constate, ratifie que depuis 20 ans, il y a une montée protestataire en France. Et on l'a vu déjà en 2007 avec Nicolas Sarkozy, qui a siphonné une partie de l'électorat du Front National, à l'époque Front National, Rassemblement National aujourd'hui. Et de la même manière, Emmanuel Macron en 2017, qui s'est présenté comme un candidat hors du parti. Moi, ce que je trouve aussi comme montre, alors vous parliez de ce que la demande des Français sur la sécurité, mais aussi de la protection et de l'autorité. Il y a trois choses que cette étude révèle. C'est ce triptyque-là, et notamment l'autorité, et c'est ce qui fait dire justement à Dominique Régnier, qui dirige Fondapol, et qui est prof à Sciences Po, si je me souviens bien. Bon. Et dit que, de toute façon, ça confirme la droitisation, notamment sur le fameux mot, si vous voulez, de Darmanin qui a été réfuté par le ministre de la Justice, l'ensauvagement. Et c'est justement la raison pour laquelle il demande assez fortement quand même la sécurité. Mais l'étude, moi, m'impressionne en ce sens où c'est que le verrou du candidat classique est en train de sauter. Si vous voulez, toutes les digues qui empêchaient un candidat protestataire d'être élu président de la République semblent céder. Et donc, le risque en 2000, même si c'est dans un an, enfin un peu plus d'un an,
de toute façon, la campagne de 2022, tout le monde le sait, se fera sur la gestion de la crise sanitaire. C'est ça aussi qui
et la sécurité.
Aura,
et la sécurité. Et la sécurité. Il y a une double crise qu'on n'avait pas effectivement la dernière fois, ni les dernières fois. Parce qu'on a la sécurité et celui Régnier dit aussi la demande de sécurité est non négociable. Oui. Les partis qui voudront l'ignorer ou atermoyer seront renvoyés à la marginalité.
Ainsi ça, que les médias
si
d'ailleurs.
Voilà, ainsi que les médias.
C'est une sécurité du quotidien, mais c'est aussi une sécurité national vis-à-vis du terrorisme, vis-à-vis, ce soir on fait un débat par exemple sur les événements avec la Turquie, avec Erdogan, avec le Koweït. On est dans un monde qui est en train de se polariser tout de même, une crise économique, une crise identitaire de la France, une crise sanitaire, le contexte
les menaces
est très morose.
Sont partout.
Mais Julien, ce phénomène protestataire, il faut quand même aussi le rapprocher de ce qui s'est passé dans deux grands pays démocratiques ces dernières années, et notamment il y a un an, deux ans, 3 ans, 4 ans pour les États-Unis. Donald Trump a été élu et en Angleterre, le Brexit est passé et Boris Johnson, qui n'est pas le moins populiste, si vous voulez, des premiers ministres, et dirige l'Angleterre.
Oui.
Ce sont deux grands pays qui se sont rapprochés des enseignements de cette étude.
Oui, oui. Le mouvement est général. Podemos en Espagne, Viktor Orban en Hongrie.
Absolument. C'est la montée quand même des populismes, indéniablement.
Oui, la montée des populistes et de la droite, d'une forme de droite exigeante, de droite dure, finalement, notamment sur les problèmes de sécurité. Et ce qui s'est passé, effectivement, à Conflans-Sainte-Honorine, là, parce que je vous rappelle aussi, quand même, c'est pour le dire, parce que l'étude en question, elle a été faite avant la décapitation du professeur.
Oui, absolument.
Hein, et je suis convaincu que les chiffres ont bougé, notamment d'ailleurs sur ce sujet de la sécurité, mais même sur d'autres sujets. Il y a une angoisse qui est née à la suite de cet événement, Qui va se traduire dans d'autres sondages.
La défiance des Français, on aura évidemment l'occasion d'y revenir. Charles, un dernier mot.
Non, simplement, ça pose une question. Est-ce qu'un candidat, si vous voulez, du monde politique traditionnel peut encore capter, si vous voulez, ce qui reste de la démocratie dans ce pays? Et c'est une part qui est quand même plus importante que ne le laisse deviner, à mon humble avis, si vous voulez, cette étude. Je pense que tu as eu raison tout à l'heure de souligner que nous sommes à un an et demi de l'élection, donc les choses peuvent encore bouger. Et c'est vrai que Emmanuel Macron, en ce qui concerne la sécurité, a choisi l'épreuve de force.
Bien, je vous avais dit un mot, vous avez fait un peu plus, mais c'est pas grave. Merci Charles Villeneuve, merci Jacques Carrérou, à demain. 18h56, on se retrouve dans quelques secondes avec le journal et le club des idées, la France face à la colère d'une partie du monde arabe. On en parle ce soir avec nos invités, à tout de suite.